Le 18-20 commence comme il se doit par ce que vous devez retenir de cette journée du jeudi 2 septembre avec le journal de Sébastien Logénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne.
L'essentiel ce soir, c'est d'abord la rentrée de 12,5 millions d'élèves.
Écoliers, collégiens, lycéens, ils ont retrouvé leurs copains, leurs classes, leurs enseignants avec en toile de fond le Covid. Certains élèves, les plus âgés, ont même eu droit à une petite piqûre de vaccin. On l'entendra, reportage et témoignage à suivre. L'autre actualité du jour, c'est le discours très attendu d'Emmanuel Macron à Marseille. Marseille en grand point d'orgue de sa visite de 3 jours dans la cité phocéenne avec à la clé des promesses financières, mais le président se fait attendre. À suivre également la victoire des anti-avortements au Texas, l'expulsion des derniers défenseurs des jardins ouvriers d'Aubervilliers et la Grèce qui pleure la mort du compositeur Mikis Theodorakis.
À 18h15, un jour dans le monde avec Cyril Cohen, ce soir spécialiste d'immunologie en Israël. On verra avec lui si Israël est toujours notre référence dans l'épidémie de Covid. Israël a de l'avance dans les dates de vaccination, mais aussi une hausse des contagions en ce moment. Mais qui est contaminé? Qui est à l'hôpital? Comment lire des chiffres là-bas qui peuvent avoir du sens pour nous? 19h20, c'est le téléphone sonne. Ce soir, nous sommes au chevet des écosystèmes et des espèces en voie d'extinction à la veille de l'ouverture du Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Vous allez me dire encore un colloque, mais pour en sortir quoi? Eh bien, peut-être que les feux, les inondations, les chaleurs de l'été, que tout ce qui a été détruit irrémédiablement, tout cela peut-être nous aide à y réfléchir ensemble. Faut-il créer, imposer des zones protégées partout, protéger la nature, jusqu'où et contre qui, quels engagements devons-nous prendre? Tout cela au 01 45 24 7000.
France Inter.
Nouveau cartable donc et nouvelle coupe de cheveux, c'est la rentrée des classes ce matin.
Oui, près de 12 300 000 élèves ont repris le chemin des cours, des élèves un peu stressés, des parents la larme à l'œil, un rituel immuable qui s'accompagne cette année d'un protocole sanitaire strict, masque en intérieur sauf en maternelle et respect des gestes barrières, avec le risque en élémentaire de la fermeture de classe en cas de contamination et le risque de devoir s'isoler 7 jours pour les collégiens et les lycéens, cas contact et non vaccinés. Alors comment cette rentrée s'est-elle déroulée? Direction le lycée Paul Lapie de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, reportage de Sonia Princet.
Les élèves ont été plus impressionnés par le lycée, tout nouveau pour eux, que par le protocole sanitaire, comme le dit Nassim.
Comme avant, quoi, c'est pas, on n'enlève pas notre masque, on fait pas d'accolade, on se lave souvent les mains. On est habitué maintenant, ça fait partie de notre quotidien. Ça fait quoi? Ça fait un an et demi qu'on l'a. Maintenant, ça pose plus de problème.
Il y a quand même quelques étourdis.
Dans le lycée, ton masque, ça fait 3 fois.
Que les professeurs rappellent gentiment à l'ordre. Mais Julia et Amani s'inquiètent surtout de ne pas pouvoir rester en classe si elles sont cas contact, car elles ne sont pas vaccinées.
Moi, personnellement, j'ai un problème à l'œil. Mon médecin a dit de ne pas me faire vacciner. Et vu que si jamais il y a un cas contact, je ne pourrais pas être là et il n'y aura pas de classe en distanciel, ça risque d'être compliqué pour rattraper les cours. Mais ma copine est vaccinée, elle pourra me donner les cours si jamais je ne suis pas là.
Ça risque un peu de créer peut-être des différences entre les élèves. Ceux qui sont en cours, ils réussiront peut-être à mieux avancer, à mieux comprendre la leçon, tandis que ceux qui sont à la maison, ils auront peut-être plus de difficultés parce qu'ils ne pourront pas poser les questions qu'ils souhaitent au professeur, etc. Du coup, ça va être plus compliqué pour suivre.
Pour l'instant, tous les cours vont se passer normalement. Thomas fait le bilan de cette première journée.
Content d'être rentré. On change d'environnement, c'est cool. En compte, je vais être en retard, donc au revoir.
Surtout, ne pas être en retard. Cette règle non plus ne change pas.
Voilà, reportage Sonia Princet. Rappelons que tous les élèves, même non vaccinés, sont acceptés en cette rentrée, bien sûr, mais beaucoup ont choisi de se faire piquer avant de reprendre la classe. 60% des 12-17 ans ont reçu une première injection et l'éducation nationale propose à tous les ados, les parents volontaires, des solutions, soit en les accompagnant dans des centres de vaccination, soit en les vaccinant sur place, au collège ou au lycée. Exemple, au lycée Guillaume Apollinaire de Nice, avec cette lycéenne qui vient de se faire vacciner.
En fait, de base, je voulais les faire pendant les vacances parce qu'on s'est vu que maintenant, il y avait des tas de restrictions et qu'il fallait se faire vacciner vite avant que, si jamais il y a un cas dans ma classe, faut que je rentre chez moi. Du coup, je me suis dit, si je le fais maintenant, puisqu'en plus, là, il y avait le vaccin, par chance, je trouvais ça. En fait, on essaie tous de se débarrasser. Dire que les jeunes ont vraiment conscience de ce qu'ils font ou d'un vaccin, je pense que c'est un peu trop. Il y en a certains, oui, ils le font pour les crises sanitaires et parce que ça touche vraiment des personnes de leur famille et ça les a affectés. Et pour la plupart, c'est juste parce qu'on a des sorties à faire et parce qu'on a tellement perdu de temps à cause du Covid les autres années qu'on se dit, là, cette année, c'est terminé.
Voilà, Justine, au micro de Lucie Loconi de France Bleu Azur.
La rentrée des classes aussi au menu de la visite présidentielle à Marseille.
Cafard, punaise de lit, salle mal isolée. Emmanuel Macron s'est rendu ce matin dans une école des quartiers nord de la cité phocéenne, extrêmement vétuste. L'État s'est engagé à participer à un grand plan de rénovation de près de la moitié des 472 écoles de la ville. Alors justement, on y est, le président a promis un grand plan pour Marseille. Il a promis de sortir le carnet de chèques sur l'éducation, mais aussi la pauvreté, le logement, la sécurité, le transport, discours extrêmement attendu du chef de l'État qui devait commencer à 16h45 et qui vient à peine de commencer. On reviendra donc, il n'a même d'ailleurs pas commencé, puisque c'est encore le maire de Marseille qui parle d'ailleurs. On reviendra donc sur les annonces présidentielles dans le journal de 19h. Juste avant ce discours, le président s'est aussi rendu à l'hôpital de la Timone, le grand hôpital de la cité phocéenne, très touché pendant la crise sanitaire, on le sait. Et au chapitre sanitaire, justement, le chef de l'État n'a pas pu échapper à une question sur le départ à la retraite de Didier Raoult, figure marseillaise très écoutée mais aussi très controversée. Alors que pense le président du professeur? Réponse très macronienne, on l'écoute.
Didier Raoult est un grand scientifique français. Il a parfois une parole médiatique qui a conduit à des réactions sur action et qui peut-être a pu aussi créer ces phénomènes. Moi je ne rentre pas dans ces débats, je dis juste qu'il faut qu'on continue à avoir de grands scientifiques, à ce qu'ils participent à la construction de la science. Et donc je pense que voilà, il faut rendre justice à Didier Raoult qui est un grand scientifique. Il faut collectivement observer que pendant plusieurs mois, nous avons sans doute eu un mauvais usage du débat scientifique en faisant un débat médiatique. Et je crois ensuite que sur ces sujets, il faut se rendre au consensus scientifique et des autorités de santé, parce que les meilleurs experts, les autorités de santé en France, partout en Europe, partout dans les pays développés du monde, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent le vaccin est efficace, le vaccin est sûr et c'est de très loin le principal moyen de vaincre ce virus.
Voilà, Emmanuel Macron sur Didier Raoult. Autre déclaration du président, il n'a pas exclu aujourd'hui une extension du pass sanitaire au-delà du 15 novembre dans les territoires français les plus touchés.
Aux États-Unis, c'est une importante victoire pour les anti-avortements.
Les pro-life, comme on les appelle là-bas, sont aux anges. Cette victoire leur a été offerte sur un plateau par la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire américaine, qui a finalement refusé de suspendre une loi du Texas, très controversée depuis des semaines et entrée en vigueur mardi, une loi qui interdit aux femmes d'avorter après 6 semaines de grossesse, même en cas de viol ou d'inceste. La Cour suprême avait été saisie, mais elle a fini par laisser faire, donc pour des raisons de procédure, décision pas très étonnante étant donné les juges qui la composent, les explications de notre correspondant à Washington, Sébastien Paour.
Ils sont 9, les 3 derniers ont été nommés par Donald Trump. La balance a donc penché vers les conservateurs tard hier soir. 5-4 avec la voix du juge Roberts, présenté comme un conservateur modéré. La plus haute juridiction des États-Unis rejette les recours déposés en urgence par plusieurs organisations de défense des droits des femmes contre cette loi de l'État du Texas qui prévoit donc d'interdire d'avorter après 6 semaines de grossesse, même en cas de viol ou d'inceste. La juge progressiste Sonia Sotomayor dénonce une décision stupéfiante qui remettent en cause un droit de 1973. Les associations qui viennent en aide aux femmes qui désirent avorter au Texas sont sur la même ligne. Selon elles, cette décision est une quasi-interdiction totale puisque près de 9 femmes sur 10 qui font la démarche la font après 6 semaines de grossesse. 12 États ont déjà tenté d'interdire l'avortement à partir du moment où il y a battement de cœur de l'embryon, mais ils ont été retoqués par la Cour suprême. Sauf que le texte texan prévoit lui que ce sont les citoyens qui peuvent dénoncer et engager des poursuites. Les recours devant les tribunaux fédéraux deviennent alors très difficiles. Joe Biden et Kamala Harris promettent de tout faire pour défendre le droit à l'avortement. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Et Joe Biden qui ajoute ce soir que cette décision sur l'avortement provoque selon lui le chaos. Toujours aux États-Unis, le bilan des pluies diluviennes qui se sont abattues sur New York après le passage de la tempête Ida s'est alourdi. Dernier bilan fait état de 14 morts. Nous serons sur place dans le journal de 19h d'Hélène Philly. On revient en France maintenant avec cette expulsion très tôt ce matin en Seine-Saint-Denis. Expulsion de ceux qui occupaient depuis le printemps dernier les jardins ouvriers d'Aubervilliers. On les appelait les jadistes, en référence aux zadistes de Nantes, un groupe d'hommes et de femmes qui s'opposaient à la destruction d'une partie de ces jardins centenaires. Mais leur combat a donc tourné court. Il y aura bien à la place un bassin d'entraînement en vue des JO de 2024, puis une piscine ouverte au public. Ajra Mohamed de France Bleu Paris.
Une dizaine de quarts de CRS se sont postés aux abords des jardins dès 7h du matin pour déloger la quinzaine de militants qui dormaient sur place. Dolores, l'une des jardinières, redoutait ce moment-là.
On s'y attendait, mais c'est quand même d'une violence terrible. Quand, si on espère tard possible. Et puis là, ils viennent de nous évacuer alors qu'on vient de contester le permis de construire et que notre avocat vient de déposer un référé suspension pour stopper les travaux. Donc du coup, ils nous évacuent alors que les travaux vont être arrêtés en fait.
Et à peine évacués, les pelleteuses sont déjà à l'œuvre sous les yeux des opposants, dégoûtés.
Ah mais là je pleure en fait.
La préfecture de Seine-Saint-Denis évoque des travaux de remise en état et de sécurisation, alors que pour Camille, c'est surtout la destruction d'un patrimoine historique et écologique qui est en cours.
Ça fait 100 ans que ces jardins sont cultivés, c'est des sols qui sont très riches, qui sont soignés, et là on est en train de les détruire avec des grosses pelleteuses qui roulent avec leurs grosses roues dessus, alors que les seuls véhicules qu'ils ont vus jusqu'à présent, c'était des brouettes.
Perrine, étudiante, est venue de Paris pour apporter son soutien et dénoncer ce projet de piscine.
Je pense que ça fait partie des projets inutiles dont on n'a pas du tout besoin aujourd'hui, et d'autant plus où il y a une artificialisation des sols qui est de plus en plus pressante. Je comprends pas que de tels projets soient encore maintenus dans le climat actuel en fait.
Évacués mais pas vaincus, les jihadistes promettent de poursuivre la mobilisation contre cette piscine.
Le reportage d'Ajra Mohamed de France Bleu Paris. C'est un chiffre inquiétant qu'a révélé aujourd'hui l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Les cas de démence dans le monde sont en hausse, souvent causés par la maladie d'Alzheimer. 55 millions de personnes touchées sur la planète, un chiffre qui pourrait encore augmenter de 40% d'ici 2030, avec à la clé un énorme coût pour la collectivité, 1300 milliards de dollars par an. Principale cause de cette hausse à venir, le vieillissement des populations, mais pas seulement. Écoutez le professeur Claude Jandel, professeur de gériatrie au CHU de Montpellier.
Il faut avoir en tête que ces affections, on estime qu'une grande part d'entre elles pourraient être, sinon prévenues, du moins retardées, si on agissait sur les facteurs de risque qu'on a bien identifiés maintenant, et notamment l'hypertension artérielle, le diabète, l'excès de cholestérol, et puis les comportements d'hygiène de vie, c'est-à-dire la sédentarisation, le surpoids, fortiori l'obésité, le tabac, l'excès d'alcool, tous ces éléments sont des facteurs de risque.
Ces estimations sont réversibles, c'est-à-dire qu'on pourrait ne pas atteindre ces niveaux?
Absolument. Alors, à la fois, ce sont que des prévisions, bien sûr, j'insiste sur le fait que ce sont des données mondiales. Donc, il y a des variables socio-économiques qui jouent également un rôle important. On sait que dans les pays les moins favorisés, le risque est plus important. Par contre, inversement, il y a peut-être des déterminants qu'on ne connaît pas forcément très bien encore aujourd'hui et qui pourraient nuancer, dans un sens ou dans l'autre, ces prévisions.
Claude Jandel, professeur de gériatrie au CHU de Montpellier, avec Hélène Chevalier.
Et on termine, Sébastien, avec la mort d'une figure de la musique en Grèce.
La mort de Mikis Theodorakis à l'âge de 96 ans, devenue une icône dans son pays pour ses compositions, et notamment la célébrissime bande originale du film Zorba le Grec, héros national également, parce qu'opposant la dictature des colonels, le pays est en deuil pour 3 jours. Reportage dans les rues d'Athènes d'Angélique Kourounis.
Le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis annonce le décès de Mikis Theodorakis. Aujourd'hui, la Grécité s'est tue, a-t-il souligné, en appelant les Grecs à s'unir autour de ce deuil national. Edith Piaf, John Baez et les Beatles l'ont chanté. Il a immortalisé le bouzouki, instrument jusque-là méconnu dans le film Zorba le Grec, mis en musique les tortures, la prison et l'exil qu'il a connus, mais aussi les plus grands poètes grecs et Pablo Neruda. Le décès de Mikis, comme l'appellent les Grecs, veut dire beaucoup plus pour Yannis Missouridis, caméraman.
C'est la fin d'une époque, de comment nous pensions la gauche. Une gauche qui n'existera plus jamais comme Mikis l'a chanté et comme nous l'avions imaginé au travers de ses chansons.
Mikis Theodorakis a accompagné tous les combats du pays, de la résistance aux nazis à celle contre la dictature des colonels, en passant par la guerre civile, sans oublier sa violente opposition aux mesures d'austérité imposées à la Grèce. Il a été élu plusieurs fois député, et malgré une dérive nationaliste dans la question du nom de la Macédoine voisine, durant laquelle il a participé sans les soutenir à un rassemblement où prenaient part des membres du parti néo-nazi grec, l'ensemble de la classe politique et les Grecs qui chantent toujours ses chansons lui rendent aujourd'hui un vibrant hommage. Athènes pour Angélique Cournis, France Inter.
Voilà, et puis au chapitre musical encore, ce suspense insoutenable, le groupe ABBA, célèbre groupe suédois que vous connaissez par cœur, Fabienne, promet une surprise d'ici 30 minutes sur YouTube, un nouveau titre peut-être, on ne sait pas, 45 ans après Dancing Queen.
Laissez-moi respirer dans un sac en plastique. Merci beaucoup Sébastien, à tout à l'heure dans Un jour dans le monde. Vous aussi, vous serez un petit peu en musique d'ailleurs, vous allez nous chanter des chansons à potin.
Pas moi.
Et c'est tout un programme. Ce soir, nous allons demander à un immunologue israélien tout ce qui se passe en Israël. Si tout ce qui se passe en Israël autour du Covid est un un avertissement pour nous réellement, puisqu'il y a une avance dans les dates de vaccination, en tout cas dans ce pays-là. Ça a toujours été un peu le pays étalon, donc on verra ça dans un instant. Et puis au téléphone sonne en deuxième heure, allez-y, le standard est ouvert, profitez-en. Nous parlons du sursaut général indispensable pour sauver la nature, les écosystèmes, les espèces vivantes, à la veille du congrès de l'Union internationale pour la conservation de la nature qui se tient à Marseille. Les incendies de l'été dans le massif des Maures notamment peuvent être le coup de fouet dont on a besoin pour mieux comprendre, mieux protéger la nature, stopper la dégradation des écosystèmes. Jusqu'où faut-il aller? Quelles contraintes, quels leviers aussi? Vos questions, vos réactions, vos témoignages au 01 45 24 7000. Et sinon, qu'est-ce qui se passe dans le ciel?
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Du soleil, Elodie Calac, bonsoir. Du soleil au nord de la Loire demain.
Oui, bonsoir à tous. En effet, le soleil va dominer toute la journée demain au nord de la Loire et sur le nord-est. Ce sera plus partagé de la Vendée et des Charentes vers le sud du Jura et le nord de Rhône-Alpes avec parfois une petite averse. Et puis plus au sud, là, on aura un temps instable. Il faudra composer avec les nuages et des averses parfois orageuses l'après-midi. Des orages parfois musclés sur le Languedoc dès le matin et puis entre le Languedoc, les Cévennes et le Var pour l'après-midi.
Et peu de changements pour ce qui est des températures, Élodie.
Oui, 9 degrés à Reims et à Mulhouse le matin, 14 degrés à Cherbourg, à Paris, 16 à Nantes, 17 à Lyon, Bordeaux, Montpellier, 21 degrés du côté de Nice. Et puis l'après-midi, souvent 20 à 25 degrés de l'Aquitaine à Rhône-Alpes, hein, sous les nuages, près de la Manche également, 23 à 27 degrés sur les autres régions du Nord et en Méditerranée. Et on ira jusqu'à 29 en Corse.
Et Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. Élodie, à tout à l'heure après 19h.